Pascal Parrinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, et bien ce soir, notre sujet de réflexion, de partage, la guérison intérieure. Et quand on dit guérison intérieure, qu'est-ce qu'on veut dire au juste?
Voilà, parce que c'est une expression assez générale, assez oui. vague. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression?
Oui.
Alors, c'est,
on l'utilise quand? Comment? C'est assez récent, enfin, il y a quelques années, quoi.
Mais... Oui, ça date des années 90-2000, à peu près. Mmh. Avec le renouveau, d'ailleurs, c'est oui. une expression qui est arrivée après le renouveau
oui.
Charismatique. Voilà. Et en général, elle est utilisée le plus souvent au sujet de week-end ou de retraite spirituelle, principalement chrétienne. Et puis parfois par rapport à un sentiment de bien-être et d'acceptation de sa vie.
Alors, est-ce que vous avez fait une petite enquête sur...
Alors, j'ai tapé guérison intérieure sur Google et il recense 500 000 liens.
500 000 liens.
Je suis pas allé au bout
de
la recherche. Voilà, mais ce qu'on constate, c'est que toutes les premières pages sont en lien avec la foi chrétienne. Et puis, un peu derrière, va arriver, mais au bout de plusieurs pages, peut-être des retraites bouddhistes aussi.
D'accord.
Donc, c'est quand même systématiquement une dimension spirituelle.
Oui.
Et puis, principalement chrétienne.
Voilà, donc on plante déjà le décor.
Voilà.
Alors, donc on voit que cette expression de guérison intérieure a à voir avec la spiritualité.
Voilà, d'ailleurs, on retrouve...
Principalement chrétienne.
Principalement chrétienne. On retrouve aussi prière de guérison,
oui.
Libération à la place de guérison intérieure.
Enfin, oui.
On est dans quelque chose, en tout cas, de spirituel
oui.
Et principalement chrétien.
Voilà, dans ce registre-là. Alors, et dans le langage psychologique, est-ce que cette expression est utilisée
Non, pas tellement, peut-être même pas du tout. On parlera de guérison à ce moment-là,
oui.
de guérison de symptômes, de guérison d'une maladie, ou d'un trouble, mais on parle pas...
Le mot intérieur.
Voilà, le mot intérieur.
Mm-hmm. Ah.
Guérison, oui.
Oui, bien
alors,
sûr, oui.
Bien sûr. Intérieur, non. Alors, peut-être c'est lié d'ailleurs, c'est parce que dans la tradition chrétienne, on parle du fort interne, du fort externe.
Oui.
Et donc, peut-être c'est lié au fort interne,
mm-hmm.
Et donc à la guérison, en quelque sorte, du fort interne.
Voilà, c'est ça, oui. Guérison du fort interne, oui. Oui, oui. Il y a peut-être un lien. Hein,
En tout cas, pour qu'il y ait le besoin de préciser intérieur, peut-être
oui.
il y a un lien. Voilà, aussi avec c'est en lien donc avec des démarches spirituelles, donc d'intériorité.
Oui.
C'est peut-être pour ça que c'est devenu intérieur.
Guérison intérieure. Alors. Qu'est-ce que signifie parler de guérison intérieure en gros, ça signifie quoi?
Ben déjà, de guérir quelque chose à l'intérieur de la personne, mais qui va être différent de la notion de péché, qui, elle, relève du sacrement de réconciliation.
Mm-hmm.
Donc, déjà, ça permet de se distinguer... De distinguer en tout cas la démarche, même si très souvent les deux démarches sont jumelées ou parallèles, mais on n'est pas dans une démarche de pardon des péchés, mais de guérison de quelque chose à l'intérieur de soi. Alors bien sûr, dans presque toutes les démarches ou retraites de guérison, il est proposé aussi le sacrement de réconciliation pour l'aspect guérison des péchés, ou en tout cas, pardon des péchés.
Mmh. Pour sur un autre plan, oui.
Mais c'est important de de distinguer les deux. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Donc, ça n'est pas le plan psychologique, proprement dit, corrigation intérieure, non. Et c'est pas non plus le sacrement, la dimension de péché, de.
En tout cas, c'est.
De pardon, ça, des péchés de réconciliation qui concerne le sacrement de réconciliation.
Voilà, et ça ne relève pas forcément du sacrement.
C'est ça. Mais. Il y a des prières, et donc...
Alors, il y a des prières.
Donc la prière, ça...
Voilà, ça relève de la dimension spirituelle, oui, de la foi. Oui, oui. Mais une personne peut ressentir un mal-être sans pour autant avoir péché. Alors, même si on est tous pécheurs, mais oui, sans que ça soit forcément rattaché à la notion de péché. Et donc... ne pas relever forcément du sacrement.
D'accord. Alors, en lien avec la guérison intérieure, qu'est-ce qu'on peut encore dire ?
On retrouve derrière la notion de blessure qu'il faudra éclaircir, parce que une blessure, alors on sait ce que c'est quand on se blesse physiquement. Au niveau psychologique, c'est pas tout à fait pareil, même si cette image de la blessure donne une image de ce que ça peut être. Voilà, mais en tout cas, c'est une notion à éclaircir, mais qui est un peu très en lien avec la guérison intérieure. Finalement, les personnes qui font une démarche de guérison intérieure espèrent guérir de blessures.
Oui.
Ou en tout cas, ils font cette démarche-là dans cet objectif.
Alors, il est donc nécessaire de différencier, puisque ce n'est pas de l'ordre psychologique, donc la guérison...
Voilà, c'est important de différencier la guérison intérieure et la psychothérapie. Et voilà. On peut commencer par dire ce que n'est pas la guérison intérieure.
Voilà, par justement recoupement, on va voir ce qu'on élimine. Qu'est-ce que ça n'est pas alors ?
Alors, déjà, ça n'a rien à voir avec des méthodes psychothérapeutiques ou psychanalytiques qui se basent à la fois sur une vision théorique. La psychanalyse, c'est toute la théorie freudienne. Les psychothérapies ont chacune leur vision théorique. Et puis, sur une technique aussi.
Différente, il y a différentes techniques, nombreuses.
Voilà, qui va être différente et spécifique à chaque méthode de psychothérapie. Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vision dans la guérison intérieure, hein. Mais en tout cas, elle ne repose pas sur une méthode thérapeutique, mais elle repose sur la foi. Donc déjà, la grande différence, c'est tout ce qui est de l'ordre de la psychothérapie, y compris ou psychanalyse, ça repose sur une méthode clairement définie. La guérison intérieure, ça repose sur la foi.
Donc là, c'est très, très net. Hein, très, ouais. Là, ça se distingue
c'est la,
bien.
C'est la
hein.
grande distinction.
Oui. Alors, donnez-nous un exemple qui montre qu'il est différencié pour qu'on comprenne bien.
Déjà, dans toute méthode de psychothérapie, il y a un cadre. On voit qu'en guérison intérieure, il n'y a pas forcément de cadre. Alors, il y a une retraite avec des horaires, mais ça peut être un week-end, ça peut être une prière dans un groupe de prières. Voilà, donc il n'y a pas un cadre qui définirait une méthode, mais justement, il n'y a pas de méthode.
Oui, enfin, c'est ça. Donc, c'est tout à fait autre chose là. Donc, il n'y a pas de méthode et pas de cadre.
Voilà. Après... Quand on regarde les psychothérapies, chaque méthode repose sur une technique pour atteindre son résultat. Par exemple, en psychanalyse, la technique, ça va être l'exploration de l'inconscient et surtout l'utilisation du transfert.
On voit bien ça.
En gestalt thérapie, ça va être la relation dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre le thérapeute et le patient? Dans l'instant présent. Mmh. Alors, même s'il y a du passé qui remonte, on le considère comme un passé qui se réactualise dans le présent. Et puis, quelle est l'adaptation créatrice de la personne? Autrement dit, comment ça se passe dans l'ici et maintenant, et comment la personne s'adapte d'une façon créative ou au contraire d'une façon figée et bloquée.
D'accord, donc c'est la relation et comment ça,
ça fonctionne.
Oui. D'accord.
Voilà, et ça c'est vraiment je prends que ces deux exemples-là, on pourrait dire l'analyse transactionnelle qui regarde les états du moi aussi, parents, adultes ou enfants.
Oui.
Voilà, chaque méthode thérapeutique a sa propre technique qui est vraiment spécifique.
Donc, et quand on s'engage dans l'une de ces méthodes, on suit cette méthode-là.
Voilà. Tout cas, le thérapeute la suit.
Oui.
Le patient s'en rend pas toujours compte,
oui.
Mais le thérapeute, lui, a sa méthode, ses grilles de lecture, sa technique, et il s'appuie là-dessus.
D'accord. Donc, ça c'est pour bien expliquer la différence avec la guérison intérieure.
Et puis on pourrait rajouter que les méthodes de psychothérapie visent à aider l'individu à prendre conscience de ses processus inconscients, donc à augmenter en quelque sorte sa conscience par rapport à l'inconscient, à rendre plus fluide ses défenses, ses mécanismes de défense ou d'adaptation, suivant comment on les appelle.
Être moins figé, moins bloqué.
Voilà. Et à renouer avec les processus d'adaptation et la créativité.
Là, ça, c'est pour les méthodes psychothérapeutiques.
Voilà. Alors, la guérison intérieure, elle fait avec le conscient. C'est-à-dire que... Il n'y a pas... quand les personnes, par exemple, dans les retraites... Elles peuvent faire une anamnèse, par exemple, mais elles parlent de ce qu'elles ont conscience.
Oui, oui.
Ou de ce qu'on leur a raconté de leur histoire. Mm-hmm. Dans la guérison intérieure, la personne fait avec
ce qui est conscient.
Oui. Voilà, ce qui est conscient. Mm-hmm. Et ça n'intervient pas sur les processus inconscients, ni sur les mécanismes d'adaptation. Et en ce sens, elle ne soigne pas des troubles psychologiques ni des pathologies psychiques comme les psychothérapies.
D'accord, c'est ce qui fait la différence. Alors, donc ça n'exclut pas des troubles psychologiques, psychiatriques.
Dans ce cas-là, si c'est un trouble psychiatrique, il faut voir un psychiatre. Si c'est un trouble psychologique, il faut entreprendre une psychothérapie.
Alors, on va revenir dans quelques instants et voir, parler de les retraites de guérison intérieure, voir ce qu'elles proposent. Pour l'instant, nous allons écouter, c'est Simon Dalmet qui chante « Soleil libre ».
Radio Notre-Dame.
Passer les Alpes au bout d'un tir.
soleil plus librement quand on après une guérison intérieure. Oui. Pascal Parinet, puisqu'on parle de guérison intérieure, on se pose la question que c'est exactement. Alors, les retraites de guérison intérieure, mais que proposent-elles ?
Alors, elles s'appuient, parce que on a parlé des méthodes, des techniques, elles s'appuient sur la théologie chrétienne.
Donc, c'est pas sur les méthodes, c'est sur la théologie chrétienne, oui.
Voilà, pour élaborer leur vision, parce qu'il y a quand même une vision. Souvent, il s'agit donc de sessions spirituelles et non pas psychologiques.
Et aussi donc d'anthropologie chrétienne.
Alors, d'anthropologie, hein? Voilà, elle s'appuie et sur l'anthropologie et chrétienne
et
sur la théologie, ou en tout cas, elles doivent s'accorder avec
oui,
la théologie.
C'est ça, voilà.
Voilà, tout ça pour dire que ce sont des sessions spirituelles
et
non
pas
psychologiques.
Donc c'est important de bien situer.
Voilà. Alors,
elle repose sur quoi ? Qu'est-ce qu'elle propose ?
Alors, elle repose d'abord et avant tout sur la foi des participants.
Oui, si on n'a pas la foi, on ne peut pas vraiment faire la démarche.
Difficilement. Alors, on peut peut-être faire la démarche et se convertir cours, ça peut arriver.
Bah oui, il peut y avoir une grâce là.
Bah, tout cas, une personne qui n'aurait pas la foi et qui irait dans une retraite spirituelle, finalement, c'est que déjà, elle est dans une démarche de foi.
Sans le savoir.
Sans le savoir. Donc,
mais elle n'est pas réticente, parce qu'une personne qui serait fermée, qui dirait non, au fond, il n'y a rien qui peut se passer.
Non. Non.
Ni en psychologie, ni en démarche psychologique.
Alors,
c'est
pareil. Oui. Quelqu'un qui viendrait voir un psy, qui dirait
il faut le consentement à la participation.
Là parce que je suis obligé ou parce que et je veux pas.
Oui.
Quand les personnes disent de toute façon.
C'est
impossible. Je sais qu'il n'y a rien à faire pour moi. Déjà, ça veut dire que la personne va résister à la démarche. Et au niveau de la foi, c'est pareil. Quelqu'un qui ferait une démarche en disant de toute façon, j'y crois pas et je veux pas y croire.
C'est pas la peine. À moins que vraiment.
À moins que la personne soit touchée par la grâce.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a quand même le fait qu'une partie d'elle
est consentante. Enfin,
a fait la démarche de se bouger, et c'est vrai pour aller voir un psy, et c'est vrai aussi pour une retraite. Donc il y a quand même au fond d'elle une partie qui y croit un peu.
Autrement, elle ne serait venue du tout.
Autrement, elle ne serait pas venue du tout. Toutes ces démarches de guérison intérieure reposent d'abord et surtout sur la foi des participants et tendent à la renouveler d'ailleurs. Je pense que le premier objectif ou le premier résultat, bien avant la guérison, c'est le renouvellement de la foi. Très souvent en s'appuyant sur un chemin de pardon. C'est-à-dire que dans cette démarche spirituelle, en général, il y a un chemin de pardon qui est proposé. Et puis aussi, alors même si on a dit que ça ne reposait pas sur la notion de péché mais de blessure, aussi le sacrement de réconciliation qui est en général proposé.
Donc voilà, il y a quand même la démarche de pardon, le chemin de pardon est souvent une clé.
Voilà, c'est on pourrait dire, c'est les deux piliers, la foi et le pardon. Et je crois que toutes les démarches de guérison intérieure reposent sur ces deux piliers-là. Et d'ailleurs, sans doute, si on en retire un, ça ne tient plus.
Oui.
On a besoin de deux jambes pour marcher.
Et on sait bien que si la foi, si on dit on a la foi et qu'on ne pardonne pas, ou qu'on,
voilà, c'est quand.
Non, c'est qu'il y a quelque chose.
Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit de pardonner 7 fois 77 fois. Je crois que c'est saint Paul qui nous dit d'aller se réconcilier si on est en colère ou qu'on a quelque chose contre quelqu'un, de se réconcilier avant d'aller dormir.
C'est ça, oui.
Bah, donc c'est vraiment fondamental.
Alors, ça n'a rien à voir avec le côté psychologique.
Non, même si parfois ça semble avoir un discours psychologisant, ça signifie pas pour autant qu'il s'agisse de psychothérapie. Et je crois que c'est important de le dire parce que beaucoup confondent, mais on verra que...
Oui, on n'est pas toujours très au clair avec ça. Hein.
Non. Alors, le discours peut paraître psychologique, mais parfois ça peut être pareil avec un ami. On peut parler avec un ami d'une difficulté et puis il peut tenir un discours psychologique. C'est pas pour autant que ça soit de la psychothérapie. Mmh. Et là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a un discours psychologisant que c'est de la psychothérapie.
D'accord. Donc là, c'est... Ça pose bien le cadre.
Voilà.
Alors, qu'appelle-t-on précisément alors retraite de guérison intérieure et quel est le but qui est visé?
Alors, à mon sens, ce sont des retraites spirituelles et vraiment, purement spirituelles,
oui.
Qui visent alors d'abord à renouveler la foi des personnes qui y participent, qui visent aussi à la conversion ou à la reconversion, parce que souvent les personnes qui y participent, beaucoup sont déjà chrétiens, par exemple, ou baptisés, mais qui visent
une nouvelle
conversion quand c'est une foi un peu... une foi sociale, par exemple, l'hérité de l'éducation, donc ça, ou approfondir, ou à faire une conversion
intérieure, de toute façon.
Que la foi ne soit pas que éducative ou qu'intellectuelle, mais qu'elle soit dans l'être de la personne. Au pardon.
Oui.
Et puis, un réajustement par rapport à la vie chrétienne. Il y a un renouvellement de la foi et réajuster sa vie ou réaligner sa vie sur la vie chrétienne, la morale chrétienne, la vie sacramentale aussi, d'aller à la messe, de recevoir les sacrements.
Donc voilà, ça remet, on peut dire, sur un juste chemin de foi. Enfin,
voilà, sur...
si on s'est écarté, ou on a... Voilà, ou qu'on est, on n'a jamais eu... par exemple, les recommençants aussi.
Voilà, tous les recommençants, mais aussi les personnes qui... la foi, il y a des périodes... ça varie, il y a des hauts, des bas, il y a des périodes où c'est un peu plus plat, où ça permet vraiment de recontacter sa foi, finalement.
Mais au départ, il y a quand même... quand on fait une démarche comme ça, c'est parce que pour guérir d'une blessure, enfin, c'est voilà. Ça, quand même.
Alors,
départ.
D'une blessure, d'un mal-être, la personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mm-hmm. Ça peut être un sentiment de mal-être. C'est pas forcément très clair pour elle. Et en fait, ce qui va se passer pour elle, c'est essentiellement d'être renouvelée dans sa foi, et puis, du coup, de réajuster sa vie.
Mmh.
par rapport à la dimension chrétienne.
Il y a
d'autres aspects peut-être. Alors j'allais dire plus existentiels, non pas que les autres ne sont pas existentiels, mais dans la perception, oui. Dans la perception de la personne. Mmh. Déjà il va y avoir le fait de se savoir aimer de Dieu. Et puis, ça va aider aussi la personne à donner un sens à ce qu'elle sait de son histoire, et puis à sa vie aussi, d'une façon un peu générale. Et puis, tout le cheminement de pardon va permettre souvent une réconciliation avec soi-même et avec les autres. Donc, il y a quand même, ça vient toucher des aspects concrets.
De vie au quotidien, d'être réconcilié avec soi-même, avec les autres,
mais
ça touche le quotidien, de la vie relationnelle quotidienne.
Voilà, mais en même temps, la foi, c'est aussi concret, c'est pas que la croyance, c'est aussi, c'est aussi incarné dans notre vie.
Bien sûr.
Alors, l'image qui pourrait représenter ces sessions, ça sera celle de la parabole du fils prodigue, finalement, qui, ayant erré plus ou moins, alors chacun à sa façon dans la vie, revient à Dieu qui l'accueille.
C'est le retour, oui.
C'est le retour. Alors, il y a peut-être une prise de conscience d'un mal-être au départ, comme le fils prodigue. Mmh. Et puis, à leur retour, lui, il est revenu comme ça, tout seul.
Parce qu'il était dans le besoin. Il a senti que c'était même la faim qui le poussait. Il mangeait pas à sa faim. Oui. Il a trouvé que peut-être s'y retourner vers son père, même en étant traité comme un serviteur, Et donc là, il y a des surprises, des bonnes surprises, comme lui dans la parabole.
Voilà, et là, c'est un peu la même démarche finalement, c'est que la personne sent peut-être un mal-être dans sa vie, et elle se tourne vers Dieu, ou elle retourne vers Dieu pour résoudre sa difficulté en quelque sorte.
Comme le fils prodigue.
Voilà, comme le fils prodigue.
Voilà, c'est la bonne. Ça sera particulièrement à cette image-là. Oui.
Ouais.
Donc, d'un retour vers Dieu. On voit bien que c'est une démarche de conversion.
C'est une démarche de conversion, d'ailleurs.
Tout avec le pardon, la réconciliation.
Voilà. D'ailleurs, on parle de guérison intérieure. Ça ne veut pas dire pour autant, si on regarde psychologiquement. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne soit guérie. Elle aura un vécu peut-être de se sentir mieux, peut-être même un vécu de guérison psychologiquement. Si elle avait des troubles ou autres, ils seront peut-être pas changés. Peut-être ils seront changés, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il y aura un vécu différent à cause de ce retour vers Dieu.
Mmh. Alors, c'est le fait de prendre le bon chemin, le bon sens. La vie prend un sens et prend le bon sens quand
Avant l'émission, on parlait de la petite Thérèse.
Oui.
La petite Thérèse, elle a reçu une grâce de guérison pour la nuit de Noël pour la mort de sa mère. Mmh. Mais on peut pas dire réellement que psychologiquement la petite Thérèse elle avait quand même des difficultés ou des troubles psychologiques. Mais c'est quand même une sainte et ça ne l'a pas empêchée d'être une sainte. Je pense aussi à Sainte Rita. Alors elle, c'était physique où elle avait reçu une aiguille qui était aiguille de la couronne du Christ qui était tombée sur son front, donc qui l'avait blessée physiquement. Elle a jamais guéri physiquement. Et même, elle a été plus ou moins mise à l'écart de son monastère par les autres religieuses parce que ça plaisait sointer et que c'était désagréable pour les autres. Et pourtant, les gens venaient à elle parce que les autres recevaient des guérisons. Alors, paradoxalement, elle n'était pas guérie, mais les autres recevaient des guérisons. Donc, on voit que c'est deux choses différentes, la sainteté et la guérison intérieure. Ou physique, d'ailleurs.
Donc, c'est un bon exemple, parce qu'on voit que... que la guérison intérieure et la guérison psychologique n'est pas forcément...
C'est pas forcément la même chose, et c'est pas forcément concomitant.
Oui, là, ces exemples-là le prouvent. Donc c'est important de différencier ces deux dimensions.
Oui, c'est important parce qu'on est devant deux paradigmes différents. Ce qui rend d'autant plus important de les différencier et d'en comprendre les enjeux pour pas être dans la confusion. Le risque, c'est la confusion entre les deux. Il ne s'agit pas d'avoir des jugements de valeur, de dire ça c'est mieux que ça.
C'est autre chose. C'est deux visions différentes.
Ce sont deux visions différentes. Qui repose sur deux dimensions différentes de la personne, d'ailleurs.
D'où l'importance de différencier.
Voilà. Et du coup, le processus, mais aussi le résultat, vont être différents. D'où l'importance de bien différencier ce qui est psychologique et ce qui est spirituel, à la fois dans le processus et dans le résultat. Il faudra différencier d'abord au départ, dans la démarche, après dans le processus et dans le résultat.
Vous pouvez nous donner une image pour qu'on voit
Quand on prend de l'huile et de l'eau, par exemple, ce sont deux dimensions. Si on parle de dimension ou deux éléments qui ne sont pas solubles l'un dans l'autre. On peut les secouer autant qu'on veut.
Ça ne se mélange pas.
Ça ne se mélange pas et dès que ça repose, l'huile remonte au-dessus. Alors parfois, on peut... il peut y avoir quelque chose de parallèle, un peu comme l'huile peut être émulsionnée dans l'eau, si on y ajoute des ingrédients ou si vraiment on la mélange très très fort, il peut se former une émulsion. Mais même dans l'émulsion, ça reste séparé.
On va y revenir pour bien comprendre cela. Nous écoutons tout de suite, je rappelle à nos auditeurs aussi qui sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Nous parlons de guérison intérieure et nous différencions bien les deux démarches, guérison intérieure et dimension psychologique, démarche psychologique. Et nous vous invitons donc à nous rejoindre avec vos questions et vos témoignages. Cette fois-ci, nous écoutons Grégory Turpin, Flamme d'amour.
Radio Notre-Dame.
Qui toute bête étrange faveur donne chaleur et lumière à l'amant.
D'amour, c'était Grégory Tuin. Donc ce soir, nous parlons de guérison intérieure. Et bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre avec questions et témoignages au 01 56 56 44 00. Oui, Pascal Brunet, donc dans la guérison intérieure...
On peut prendre l'exemple de l'eau et de l'huile.
Voilà, de l'eau et de l'huile. Hein, de l'eau et de l'huile, quand on secoue l'eau et l'huile, il y a une
émulsion, on a l'impression que
ça se mélange,
mais ouais. Ça ne se mélange pas.
Ça ne se mélange pas, il reste des particules.
Parce que les gouttes d'huile restent bien séparées de l'eau.
Oui.
Simplement, on a cassé en quelque sorte la masse d'huile en plein de petites gouttes qui vont se répartir dans la masse d'eau sans jamais se mélanger.
Et ça, c'est le fait du mouvement.
C'est le fait du mouvement.
Oui. Donc là, on a mis en mouvement, par cette démarche de guérison intérieure, on a mis en mouvement.
Voilà.
Donc ça se fluidifie, comment on peut dire
Alors, suivant, tout va dépendre de la personne.
Oui, bien sûr,
voilà.
Bien sûr. Mais qu'est-ce qui va...
En quelque sorte, on va recréer un courant de foi. Hein. Je pense, ça doit être dans Ézéchiel, où on parle dans la vision du temple de Jérusalem, où il y a cette rivière qui coule le long du temple et qui vient arroser la terre.
Oui.
Voilà, ça c'est le courant alors de l'Esprit Saint un courant de foi interne en la personne.
Donc ça remet en marche le courant de vie, de foi, de vie, ça va.
Et du coup, ce courant de vie, il va entraîner en quelque sorte la personne dans son sillage. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une transformation au niveau psychologique.
Alors justement, il n'y a pas de transformation forcément au niveau psychologique. Mais est-ce que dans une démarche psychologique... il y aura la même chose ou bien à ce moment-là qu'il y a guérison
dans la démarche psychologique on peut pas garantir une guérison, on peut
ou à mieux-être
un mieux-être, une amélioration.
Mais
en fonction des troubles il y a bien sûr souvent des guérisons mais là aussi il faut voir comment arrive la personne.
Mais si on prend l'exemple de l'émulsion par exemple
ce qui va se passer c'est que on va la psychothérapie par exemple va guérir les troubles va assouplir toutes les défenses, donc permettre à la personne de trouver en elle et une adaptation à la vie, une adaptation créative à la vie. Mais par exemple, la structure elle-même, c'est-à-dire le caractère de la personne, ne va pas changer. C'est-à-dire que voilà, si on est un peu obsessionnel à vouloir, à aimer l'ordre, à bien ranger, la personne ne va pas devenir laxiste.
Le tempérament de base, la base reste.
Voilà. Par contre, ça sera beaucoup plus souple.
D'accord.
Et elle n'en souffrira plus. Elle aura plus les mêmes besoins. D'ordre, elle acceptera un peu de désordre, elle acceptera la vie, voilà, elle acceptera qu'il y ait des mouvements dans la maison, ou quelqu'un qui au départ avait des phobies, elle aura soit beaucoup moins peur, soit voire plus peur du tout, mais ça restera quand même quelqu'un qui sera plus facilement inquiet ou plus facilement anxieux que d'autres. C'est-à-dire que finalement la structure de base ne va pas changer, mais elle va beaucoup s'assouplir, ce qui va en quelque sorte éliminer les troubles.
Donc il y a d'une façon ou d'une autre, deux façons différentes. La vie qui se remet en marche, un mouvement, et pas sur
voilà.
Les mêmes...
Voilà, mais sur des domaines différents. Dans la psychothérapie, ça va être un mouvement qui se remet au niveau psychologique et notamment dans les processus créatifs de la personne et d'adaptation. Et puis, au niveau spirituel, c'est un mouvement dans la dimension spirituelle, dans la foi de la personne. C'est vrai, c'est la foi qui se remet en mouvement.
Et donc, ça recrée de la vie d'une façon ou d'une autre. Enfin,
voilà.
Ce n'est pas les mêmes plans,
voilà.
mais ça recrée
de la vie et du mouvement à la fois dans la personne et puis aussi dans la vie concrète.
Bien sûr. Donc, la personne est plus vivante.
Voilà.
Donc on voit bien à la fois les différences et puis ce qu'il peut y avoir de commun, enfin, d'une façon générale. Alors, donc, est-ce que les interactions entre les deux plans...
Alors, ça existe, bien sûr. On sait qu'il y a des interactions dans nos différentes dimensions. On sait que quand on est fatigué physiquement, par exemple, on sera plus sensible ou plus anxieux ou ça va ou plus susceptible, enfin ça va jouer sur notre psychologie. Ou quand on n'a pas le moral, on aura peut-être un peu moins d'immunité et on attrapera plus facilement un rhume. Voilà, ça on sait qu'il existe des interactions. Et c'est pareil au niveau spirituel et psychologique,
bien sûr. Quand on va mieux dans un plan,
dans un domaine, ça favorise aussi les autres plans.
Voilà, il y a une ouverture quelque part. On peut parler d'ouverture d'une façon ou d'une autre, même si ça se passe pas sur le même plan.
Voilà. Mais en même temps, on pourra rajouter qu'on sait distinguer nos besoins en général. Pas toujours, mais idéalement, on sait le faire. Et par exemple, si on a besoin de nourriture physique,
on va
manger physiquement.
Oui.
Mais si c'est de nourriture intellectuelle qu'on a besoin, on va faire une formation, on va lire un livre. Si c'est une nourriture relationnelle, on va voir nos amis. On va participer à des rencontres. Puis si c'est une nourriture spirituelle, on va rentrer dans une église.
On va faire une retraite.
On va faire une retraite. Et donc ça, en général, on le sent.
Donc on va vers.
On sait un peu distinguer quels sont nos besoins et comment on y va.
Quelle nourriture on a besoin, d'une façon ou d'une autre. Alors, oui. Donc, Souvent, on peut confondre aussi tout ce qui est de la psychiatrie. Enfin, on n'y voit pas toujours très clair. Donc, c'est important de.
Oui, alors. Ben,
d'éclaircir ça, justement.
Je pense que c'est important parce qu'il y a vraiment, en tout cas dans l'esprit du grand public, une confusion totale entre. Alors, déjà à l'intérieur du monde psy. Et puis, entre le psy, le spirituel, pour beaucoup de personnes, tout ça, c'est la même chose. Et pourtant, non. Voilà. Et par exemple, si on va voir un psychiatre ou même un psychologue, ça signifie pas pour autant qu'on fasse une psychothérapie. Parce que, alors, même s'ils ont le titre de droit par la loi, en tout cas, dans leur cursus, ils sont pas formés à la psychothérapie. Un psychiatre est formé à diagnostiquer des troubles mentaux, à donner des traitements médicaux, mais pas à la psychothérapie.
C'est dommage parce que ça pourrait aller ensemble aussi. Non?
Alors il y en a qui se forment en plus,
mais c'est pas dans le cursus.
Mais pas dans leur cursus ou en même temps que leurs études ou le plus souvent après ils vont se former pour soit à la psychanalyse, soit à une technique de psychothérapie, mais ça en plus.
Mm-hmm. C'est dommage que ça soit pas prévu dedans parce que il y a.
Ce sont des métiers différents en fait.
Oui, d'accord.
Donc
ça n'aborde pas la personne sous le même angle.
Non.
Mais on peut avoir besoin, oui. Donc.
Oui, mais on parlait de méthode et de technique au début. La méthode pour traiter et la technique sur laquelle s'appuie. Sont complètement différentes. Ce sont des métiers qui n'ont absolument rien à voir. Alors, même si l'objectif, au final, c'est d'aider la personne à aller mieux, voilà, mais la méthode d'un psychiatre, ça
va être... C'est des médicaments, en général.
Alors, ça, c'est la technique. La méthode, ça va être toute la biologie humaine.
Oui.
Le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du corps pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres pathologies, par exemple, ou je sais pas, des tumeurs ou des choses. Donc, toute sa formation.
Ça reste un niveau là vraiment matériel, biologique.
Oui.
Voilà. Après, la psychothérapie.
Après, sa méthode, ça va être les médicaments, donc la chimie. Pour soigner la biologie. Un psychologue, lui, par exemple, il est formé donc dans le domaine de la psychologie, qui est pas le même domaine que la psychiatrie, mais il va être formé à faire passer des tests, soit de personnalité, soit de compétences comme le QI. Il est formé à faire passer des tests, à évaluer en quelque sorte.
Évaluer, oui. Voilà. Mais ça ne soigne pas.
Mais il n'est pas formé à soigner et à faire de la psychothérapie.
Finalement, c'est le psychothérapeute qui a sa formation.
Alors, plus maintenant.
Non.
Maintenant, parce que depuis la loi Coyer, en fait, les psychiatres, les psychologues, alors avant c'était pas défini, ont le titre d'office de psychothérapeute.
Ah bon, d'office.
Voilà.
Mais oui, mais même sans avoir fait de démarche de psychothérapie.
Non. Alors.
Ah, mais il y a une confusion là.
Oui. Alors aujourd'hui, ce sont les psychopraticiens. En fait, quand il y a eu la loi Coyer, donc qui a changé, dit grosso modo, ça a été une mainmise sur la psychothérapie. Peut-être d'ailleurs parce que les gens se tournaient de plus en plus vers les psychothérapies. Et donc, il y a une mainmise dessus. Et donc, toutes les fédérations de psychothérapeutes de l'époque ont décidé de changer le nom. Et ce qui étaient les psychothérapeutes d'avant sont devenus les psychopraticiens maintenant.
Psychopraticien, d'accord. Voilà. Donc, bon, l'essentiel, c'est de faire en sorte que les, voilà. les patients aillent mieux. Mais que
en
les,
gros,
que, les gens qui font des démarches aillent mieux.
Voilà, ce qui est important, c'est que les gens qui font de la psychothérapie ou qui font de la psychanalyse l'ont d'abord expérimenté sur eux-mêmes,
eux-mêmes
c'est-à-dire
oui.
qu'ils ont déjà
fait la démarche,
fait
eux-mêmes,
la démarche eux-mêmes,
un travail sur eux-mêmes, oui.
un travail sur eux-mêmes pour en comprendre tous les mécanismes et les vivre.
Et les vivre,
et
c'est
les
ça.
Vivre.
Tandis que le psychiatre, pas forcément.
Voilà.
Voilà, 0156 deux fois 4400, on se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir avec Pascal Parinet, nous parlons de guérison intérieure. Alors, donc, on évoque, justement, on évoquait les différentes professions, on peut dire.
Voilà, et donc, on disait que c'est pas parce qu'on voit un psychiatre qu'on fait de la psychothérapie ou qu'on voit un psychologue qu'on fait de la psychothérapie et que les personnes qui font de la psychothérapie l'ont d'abord vécu eux-mêmes ou de la psychanalyse, hein, c'est pareil.
Bien
les
sûr.
Psychanalystes ont fait aussi
une psychanalyse pour pouvoir. Oui. Il y a un vécu personnel.
Voilà, pour pouvoir comprendre tous les mécanismes.
Ouais, ouais.
Parce qu'il ne suffit pas de les savoir intellectuellement, il faut vraiment que ça soit intégré. Et ça passe par tout l'être.
Par tout l'être, oui.
Voilà. Et puis, après cette psychothérapie ou cette psychanalyse, ils apprennent la technique. C'est-à-dire ils l'expérimentent et ils la vivent d'abord, et après ils l'apprennent, ils en apprennent tous les aspects pratiques, tous les aspects théoriques et tous les aspects pratiques.
De cette technique pour aider les
autres. Voilà, et après pour aider les autres.
À faire cette démarche aussi.
À faire cette démarche-là.
Dans laquelle le thérapeute est impliqué aussi, dans la gestalt-thérapie, par exemple.
Voilà.
Il y a la relation de l'ici, dans l'ici et maintenant.
Voilà, en gestalt, il y a la relation dans l'ici et maintenant. En analyse, il y a le transfert. Donc, dans tous les cas, le thérapeute est impliqué dans la relation.
Oui.
Et d'ailleurs, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, toutes les études démontrent que finalement la technique représente à peu près 20% de la guérison. Et que ce qui fait la plus grande part de la guérison, c'est la relation de personne à personne, bien avant la technique. Ce qui montre que c'est vraiment la relation humaine qui guérit,
mais ça même avec un médecin, on va voir un médecin généraliste, s'il y a une bonne relation, il y a quelque chose qui passe et voilà, il va mieux comprendre. Ça c'est beaucoup plus subtil, quoi. Oui. Hein, c'est nous avons on écoute. Oui, dans quelques instants, Jean-Marc, voilà, et là on finit.
D'où l'importance de ne pas mélanger. Alors on voit que c'est déjà un peu la confusion au niveau psychologique, mais ça peut l'être encore plus quand on rajoute encore la dimension spirituelle.
Oui.
Mais en même temps, c'est important de ne pas être non plus dans le tout ou rien, où tout n'est pas psychologique dans la vie.
Oui, bien sûr.
Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de suivre une psychothérapie. Et tout n'est pas non plus spirituel. Dit autrement, il n'y a pas que Dieu qui guérit. Il y a des croyants qui pensent qu'il n'y a que Dieu qui guérit.
Mais ils passent par des médiations.
Mais ils passent aussi par des médiations. Et si j'ai la jambe cassée, je vais mettre un plâtre. Si j'ai un trouble psychologique, je vais faire une psychothérapie.
Oui. Mais justement, c'est une alliance. L'homme progresse dans la... Ouais.
Mais ce qui est important, c'est de sortir d'une vision monolithique...
Et un peu magique.
Voilà. Alors,
souvent,
chez des chrétiens, c'est un peu magique, c'est de la pensée magique. Dans d'autres domaines, il y a des gens qui ne verraient tout en psychologique, c'est pas vrai non plus. Je crois que
c'est pas tout ou rien.
La nature humaine est multidimensionnelle, elle est plus compliquée que ça, c'est important de prendre en compte chaque dimension.
Un grand merci, Pascal Parinet. Nous allons écouter tout de suite Jean-Marc qui est en ligne. Bonsoir, Jean-Marc.
Oui, bonsoir, Jean-Marc. Je vais m'adresser
à Pascal Parinet.
Voilà, on vous écoute.
Vous êtes psychanalyste
et gestalt-thérapeute.
Psychanalyste et gestalt-thérapeute, oui.
D'accord, ok. C'est un peu complexe parce que ça va prendre trop de temps.
On ne fait pas une psychanalyse là, tout de suite, hein.
Comment ?
On ne fait pas la psychanalyse à l'antenne. Hein.
Non, mais il y a une relation entre la psychothérapie, la psychanalyse, la psychologie. J'en ai fait 15 ans.
Ouais.
J'étais bipolaire et j'en suis sorti. Voilà. Et c'est très intéressant les sujets abordés.
Ouais.
Et je voulais poser une question. J'ai été traversé par la psychanalyse et c'est valable je dirais pour tout le monde comment aborder la chose,
dites comme ça vient.
Oui, alors je lance comme ça.
Oui.
On y va. De toute façon, Chantal, vous le savez, j'appelle souvent. Vous savez, j'ai été en psychiatrie 3 semaines.
Ouais.
Et j'avais mal au crâne. Et l'infirmière m'a dit non, vous prenez pas de Doliprane. Vous montez dans votre chambre. Et elle m'a dit, vous mettez un gant de toilette.
Mais vous avez témoigné le mois dernier ou il n'y a pas longtemps ?
Oui.
d'accord.
Je me souviens de vous.
Ben oui, c'est ça, voilà.
Ah ben, c'est vous, monsieur ?
Oui. Mais oui.
Ah, d'accord. Parce qu'à donc, vous connaissez...
Il voilà. se souvient bien de vous, oui, quand vous avez témoigné.
Bon.
Oui.
D'accord. Bon.
Mais vous voulez ajouter quelque chose par rapport au sujet de ce soir ?
Oui, exactement. C'est-à-dire que maintenant, après avoir été agnostique, j'ai jamais été athée, voilà. Plutôt agnostique, bon, j'ai eu la foi. Bon, on en a déjà parlé. Comment dire ? Ah, c'est compliqué. L'étude de l'être humain, enfin, je veux dire, bon, bref, la foi, parce que j'ai un pasteur dans ma ville, à Chaville, mmh. on en parle, et voilà, il est pasteur, hein, et, ouais. enfin bon, peu importe, hein, catholique ou pasteur.
Il est chrétien,
il croit au Christ.
Exactement,
bon, voilà. Il a la foi mmh. dans le Christ.
Nous sommes chrétiens. Et je voulais savoir une chose. Comment dire cette force qui dépasse à la fois bon l'analyse enfin bref tout ça et qu'est-ce qui nous pousse à monter au-delà enfin c'est-à-dire prendre de la hauteur comme le dit très bien Madame Taubira enfin excuse-moi voilà hop prendre de la hauteur par rapport, je dirais, à nos propos de tous les jours, aux difficultés de tous les gens. Et moi j'en ai, et d'autres en ont. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment, mais qui ont l'air toujours de demander une aide de Dieu. Et moi je me demande si, en fin de compte, on n'a pas créé Dieu.
Mais...
Ah oui, je sais, ça va loin. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que vous me dire, monsieur le prêtre voilà.
Alors, par rapport je ne suis pas prêtre.
Il n'est pas... pas de confusion.
Excusez-moi.
Je ne suis pas prêtre. Je peux vous donner ma conviction.
Oui, vous voyez mes propos. Oui, voilà. Je vous écoute.
Je pense... que d'une certaine façon on se construit une image de Dieu.
Alors,
c'est-à-dire chacun imagine Dieu en fonction de son histoire, de sa vie. Donc, l'image qu'on a de Dieu, je pense qu'on se la fabrique. Et parfois il y a besoin de la réajuster. Par contre, est-ce qu'on se construit Dieu ? Quand on raisonne un peu, le monde a une origine. Il faut bien qu'il y ait une origine.
Si vous voulez, pardonnez-moi, je vous écoute.
Voilà, tout le monde a une origine, on sait.
Oui.
Voilà, mais l'univers, il a forcément une origine. Alors, on peut l'expliquer par le Big Bang, mais qu'est-ce qu'a fait le Big Bang ?
J'ai fait beaucoup d'astronomie. Oui.
Donc, il y a un moment, de toute façon, se pose la question de Dieu.
Oui.
C'est une question qui est inévitable. Alors après, ouais. Après c'est la conviction de chacun.
Je ne pense pas que c'est une conviction.
Voilà. En tout cas, il y a un aspect de la raison qui dit.
Oui, la raison.
Voilà, on ne peut expliquer le monde que par Dieu. Voilà, parce que oui. Tant, sinon on peut toujours remonter oui. en avant, mais il y a bien un moment quelque chose qui a créé.
Les plus grands scientifiques aboutissent à un moment donné à se poser cette question.
Oui, comment il s'appelle, Monsieur Reeves,
Reeves, oui, voilà. Entre autres. Oui.
Bon, il y a plein de. Excusez-moi. Après.
Bon, alors. Oui, parce que là. Bon.
Mais je vais compléter. Ça, c'est l'aspect raison. Il y a aussi un aspect, c'est que sans doute d'une façon innée, on est poussé à cette recherche, ou au moins à cette question. C'est-à-dire qu'on porte en nous le germe de la foi. Voilà, et après, en fonction de la vie de chacun, ben, chacun va cheminer différemment. Mais...
Alors, à l'origine, voilà, et puis il y a des grandes traditions différentes, mais il y a quand même des points communs.
Voilà, on peut voir partout sur Terre, la question de Dieu se pose, alors de différentes façons, en fonction des cultures ou des religions. C'est une question universelle.
Universelle de l'homme, hein. Voilà. On va pas, on peut extrapoler là-dessus. Alors,
je termine par une chose.
Oui.
L'homme, l'humain,
oui.
Parce que moi je suis très humaniste, a développé des idées. Prenons par exemple, les Égyptiens, polythéistes, les Incas, et nous avons connu Monsieur Abraham, qui a créé le monothéisme.
Non, mais déjà les Égyptiens avec le dieu Ra.
À partir
d'Akhenaton, c'est devenu monothéiste.
C'est vrai.
Oui. Ouais.
Après, il y a toute une organisation.
Une élaboration.
Jean-Marc, là, on peut passer toute la nuit, là. Hein.
Parce que moi, j'ai.
Oui, on va pas résoudre la question.
Non. Bon. On fait de la théologie.
Bon, écoutez.
C'est plus une discussion à avoir avec un prêtre ou
j'ai un diacre, un prêtre.
Alors vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous allez poursuivre avec eux. Chemin.
Oui, mais j'aime bien. Alors j'en finis là. Votre radio, qui est une des rares radios qui qui parle justement de tous ces cette problématique,
de l'homme dans son entier, quoi, dans toutes ses dimensions.
Voilà.
Bah écoutez, merci, et puis voilà, c'est comme ça qu'on chemine tous ensemble, progressivement. Merci Jean-Marc, et puis
Merci Chantal, merci Monsieur
Parinet. Pascal Parinet.
D'accord. Au revoir.
Bonsoir. Bonne route, Jean-Marc.
Bonsoir et à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Bonsoir, Jean-Marc. Voilà, on va poursuivre un petit peu, Pascal Parinet. Peut-on guérir de ses souffrances?
En tout cas,
On parle de blessures, on va parler des blessures. Je ne sais pas comment on peut partir de cela.
Ce qu'on peut dire, c'est que dans beaucoup de cas, d'abord, on peut supprimer des symptômes ou au minimum les diminuer beaucoup.
Là, dans le sens, au point de vue psychologique ou au point de vue...
Alors là, je parle au point de vue psychologique.
Voilà, on peut diminuer. D'accord.
On peut soulager la souffrance en tenant compte du temps nécessaire, c'est-à-dire, c'est pas magique, mais on peut soulager la souffrance et permettre en tout cas à la personne d'aller mieux, même lorsque tout n'est pas résolu, mais peut-être c'est une utopie, la santé parfaite.
Mais oui, de notre époque.
Voilà.
Hein, qui est tout.
C'est pas parce qu'on serait même guéri complètement, à supposer que ça soit possible.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
Voilà. Il n'empêche qu'on. Ben voilà, quand on a la bonne santé, ça ne nous empêche pas d'attraper un rhume, de nous faire d'un mal au dos. Ben, oui. C'est pareil, il n'y a pas de guérison absolue. Voilà. Par contre, on peut se sentir bien et être heureux dans sa vie. Hein. Voilà. Mais il y a deux choses qu'on peut pas changer chez l'adulte.
Oui.
La première chose, c'est son passé. On peut pas le changer.
Le passé, bon.
La seule chose qu'on peut faire, c'est que la personne l'accepte. Donc, la personne peut accepter son passé. Elle peut l'intégrer, et même l'intégrer comme finalement c'est ce qui l'a construit.
Ce qui fait sa particularité.
C'est ce qui fait sa particularité. Sans cette histoire-là, elle ne serait pas la même personne. Et donc, on peut le regarder aussi d'une façon positive, son passé.
Oui, bien sûr.
Et puis, le caractère. Voilà. Mais par contre, si une personne en souffrait, que ce soit de son passé, de ses mécanismes caractériels, elle aura suffisamment changé pour ne plus en souffrir. Alors, de la même façon, guérir de ses blessures, ça ne voudrait pas dire être sans faille. Ça n'existe pas, ou sans fragilité.
Oui, bien sûr, mais c'est...
On serait plus humain.
Mais notre société, elle voudrait faire l'homme parfait, l'homme qui... Voilà, ouais. C'est dangereux.
Là, on se dirige vers le transhumain.
Oui, le transhumain, le transhumanisme, oui. Ça, c'est pas recommandé.
Mais c'est pas forcément plus souhaitable pour autant. Voilà, mais en tout cas, guérir de ses blessures, ça veut pas dire être parfait, être sans faille, être tout puissant.
Ben oui.
Forcément.
Mais c'est la tentation quand même aujourd'hui.
C'est la tentation.
À toute époque, mais aujourd'hui particulièrement, on a les moyens aussi.
Voilà, en tout cas, on rêve un peu de ça, mais parce qu'on est pris dans un mouvement de consommation, on veut le dernier appareil qui est encore mieux que celui d'avant. De la même façon, on voudrait être encore mieux que ce qu'on était il y a un mois ou il y a un an.
Oui, mais est-ce que c'est la bonne méthode pour être mieux, pour dans cette évolution aussi, qu'on souhaite une évolution, une croissance humaine et spirituelle.
Ça, c'est normal.
Voilà. Mais.
Mais pas une course en avant.
Voilà, c'est ça. Dit comme ça, voilà, on comprend, je crois. Alors, on va écouter tout de suite, c'est Michel Berger qui nous remet avec cette petite prière qui nous redonne cette dimension indispensable de la relation entre l'homme et la transcendance, son créateur, Dieu.
Radio Notre-Dame.
Juste une petite prière, quand tu me regardes avec tes grands yeux. Juste une petite prière, pour te sentir partout comme tu veux. Juste une petite prière, quand tu me caresses avec tes cheveux. Juste une petite prière, que je te joue la vie à deux.
Juste une petite prière,
c'est pour me demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire. S'aimer seul devant la télévision. On voit juste des petites prières dans combien de films et combien de chansons. On se sent quelquefois seul même quand la radio tourne à fond. C'est pour se demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire.
Michel Berger, la petite prière. Ce soir, nous parlons de guérison intérieure avec Pascal Parinet. Donc, pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00, nous écoutons tout de suite Anna. Bonsoir, Anna.
Alors, c'est pas Anna, c'est Anne, mais c'est...
Ah bon, c'est Anne. Alors, bon, Anne, excusez-moi, Anne.
Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Alors, en écoutant l'émission, je me suis posé une question parce que Pascal a dit... la guérison intérieure se fait avec le conscient, avec le conscient. Et ça me pose question en partie, enfin je suis d'accord en grande partie, mais il me semble que en invoquant l'Esprit Saint, il me semble, peut révéler des choses inconscientes. Alors peut-être c'est pas l'inconscient, mais en tout cas des choses dont on n'a pas conscience. Alors voilà, j'aurais aimé avoir des précisions, je pourrais donner un exemple. Et on parle de l'évangélisation des profondeurs. Simone Pacaud,
hein, oui.
L'évangélisation des profondeurs. Mmh. Donc,
oui, mais dans l'évangélisation des profondeurs, ce sont toujours des mécanismes conscients.
Oui.
Voilà. Enfin, je pense qu'on peut pas élargir ici complètement à la notion d'inconscient. Ce qui peut se passer en guérison intérieure, ce sont des prises de conscience. Ça peut arriver, mais on n'agit pas pour autant sur les mécanismes inconscients, sur les mécanismes de défense. Qui eux sont inconscients, on prend pas conscience forcément de ces fantasmes qui eux aussi sont inconscients. Ce qui peut revenir à la conscience, c'est par exemple un souvenir qui a été refoulé. Mais ce n'est pas agir sur les mécanismes inconscients pour les rendre conscients et en faire quelque chose.
D'accord, voilà, ça peut être
c'est,
un souvenir
c'est pas
refoulé.
Tout à fait pareil. Voilà, un souvenir peut remonter à la conscience en guérison intérieure, mais aussi dans la vie courante. Et bien sûr en psychothérapie, mais la psychothérapie c'est pas seulement et alors là peut-être il y a une grande confusion entre la guérison intérieure et les méthodes de psychothérapie ou d'analyse, c'est par rapport à l'anamnèse.
Oui, justement, j'allais partager mes très brefs. Enfin, dans l'anamnèse que j'ai vécue, j'ai pris conscience. Alors, je comprends mieux cette expression prise de conscience. J'ai pris conscience de l'amertume immense que j'avais envers ma mère.
Voilà. Mais,
voilà. Hein?
Oui.
Donc, mais qui sans doute était déjà consciente. ou préconsciente.
Préconsciente.
C'est remonté à la surface, quoi.
Voilà, c'est remonté. Et puis surtout, toute l'ampleur. Et à partir du moment où, justement, ce travail s'est fait de prise de conscience et de vouloir, ça a été un chemin ouvert pour le pardon et puis une vraie libération.
Ouais.
Là. Mais c'est cette histoire de... Donc, la prise de conscience, ce n'est pas l'inconscient, en fait.
Alors... D'abord, quand il y a prise de conscience, ça veut dire que c'est déjà préconscient.
Mm-hmm.
Hein? Parce que avant de passer par le conscient, ça passe par le préconscient.
Mm-hmm. Alors,
il y a trois couches, en quelque sorte, inconscient, préconscient et conscient.
Mm-hmm.
Donc quand ça arrive comme ça, c'est déjà dans le préconscient.
Mm-hmm.
Et puis, c'est...
Donc les souvenirs refoulés,
donc,
c'est en préconscient, non ?
Alors, quand ils sont complètement refoulés,
oui, ils sont plus,
ils sont dans l'inconscient,
oui.
mais il y a un moment où ils remontent dans le préconscient et c'est là où on en prend conscience.
Oui.
Dans le travail de psychothérapie ou de psychanalyse, il y a tous les souvenirs refoulés qui vont redevenir conscients.
Mm-hmm.
Le travail ne se fait pas là-dessus.
Ah oui.
En analyse, il ne se fait pas sur le souvenir, il se fait sur le transfert.
Ah oui.
Mm-hmm. Hein, qui n'est pas du tout la même chose.
D'accord.
En gestalt thérapie, par exemple, même si la personne amène un souvenir, on travaille pas sur le souvenir en lui-même, on travaille sur les mécanismes d'adaptation qui ont été mis en place à l'occasion de cette expérience.
D'accord.
Hein?
Mm-hmm.
Donc, quand on parle de processus inconscient, on pense d'abord en analyse transfert et en gestalt mécanisme d'adaptation.
D'accord. Mmh. D'accord. Mmh. Donc c'est là que tu disais qu'il y avait une confusion un peu entre la guérison intérieure.
Oui, parce que, enfin, en tout cas, quand il y a une amnèse, pour beaucoup de personnes,
oui.
Leur impression, c'est l'analyse, c'est raconter sa vie et rechercher ses souvenirs.
Mm-hmm.
Alors, ça se fait en analyse parce que les souvenirs remontent naturellement, mais le travail il se fait pas seulement, en tout cas c'est pas la plus grande partie. Le travail de guérison il se fait à partir du transfert et de la résolution du transfert.
D'accord.
En psychanalyse.
En psychanalyse
et en gestalt il se fait dans la relation. Avec le thérapeute ou quand c'est en groupe avec les autres membres du groupe et puis la prise de conscience des mécanismes et des processus que la personne met en place dans la relation.
Mm-hmm.
Peu importe s'il y a un souvenir ou pas qui vient, c'est quel processus se met en place.
Mm-hmm.
D'accord, oui, alors en effet ça m'éclaire bien.
Mm-hmm.
Voilà, par rapport à l'anamnèse. D'accord.
Mais merci d'avoir posé ça éclair. Si, pour tout le monde, Anne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir. On peut parler un peu aussi, Pascal, avant de reprendre là. Est-ce que vous proposez prochainement un stage qui peut...
Oui, alors on a au mois de février, le 1er et 2 février...
Oui.
Un stage de confiance en soi et d'estime de soi.
Oui.
Donc c'est un stage où chacun est amené à explorer, mais à vivre aussi au cours du stage le fait de se faire confiance.
Et ça, c'est à plusieurs, c'est donc il y a quelque chose qui se passe en groupe là.
C'est au sein d'un petit groupe. Alors c'est un travail à la fois individuel au sein du groupe. où chacun peut résoudre ce qu'il souhaite résoudre ou ce qui lui est spécifique par rapport au thème de la conférence. Et puis en même temps, bah, comme ça en groupe, il y a les interactions du groupe qui amènent aussi la question de la confiance. Voilà. Donc ce stage vise à restaurer la confiance en soi ou à l'améliorer et l'image de soi, puisque les deux vont souvent ensemble.
D'accord. Donc ça, c'est le...
Donc ça, c'est le 1er et 2 février.
Oui. Et puis, on peut redonner les coordonnées pour
Alors, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
06
60 15 79 60. Et le site internet, c'est IFPSY.
Tout attaché.
IFPSY, tout attaché, .com.
Voilà.
Voilà, il y a tous les renseignements et de quoi nous contacter sur le site.
Voilà, et nous, au standard, dans la journée, si vous n'avez pas noté. Alors, ça, c'est une chose,
hein,
mais je souhaitais qu'on vous parle, parce que la fois dernière, hors antenne, quand on a eu terminé, vous m'avez parlé de...
D'une page Facebook.
Oui, une page Facebook.
Voilà. Alors, il y a une page Facebook qui est FEPSY aussi, et il y a une page Facebook qu'on a créée avec Marie-Laurence, donc après les attentats, qui est une minute par jour pour que règne l'amour.
Une minute par jour pour que règne l'amour. Oui. Ça, c'était vraiment.
Donc ça, c'est le nom de la page.
C'est ça. Alors, si on va sur cette page-là, une minute par jour pour que règne l'amour.
Une minute pour que règne l'amour.
Une minute pour que règne l'amour. Oui.
Ah, c'est soit une minute par jour pour que règne l'amour ou une minute pour que règne l'amour.
D'accord.
L'un des deux, parce que je le dis de tête.
Oui,
mais
d'accord.
Comme moi, j'ai l'accès direct, je ne sais plus bien. En fait, l'objectif de cette page... c'est de s'adresser à tous, croyants, non croyants,
tous les hommes de bonne volonté,
voilà,
tous les hommes, oui, puisque nous sommes
dans
la humanité,
pour que chacun à sa façon prenne tous les jours une minute à 8h du matin.
Donc 8h, hein, c'est
pour penser à l'amour et souhaiter que l'amour se répande parmi tous les êtres.
Voilà.
Voilà, donc
le règne de l'amour, hein.
Voilà, c'est
le règne de l'amour.
Voilà, ça tombe en même temps que l'année de la miséricorde, mais on n'a pas. Je suis en train de faire le lien.
Mais oui, là, à l'instant, oui.
J'y avais pas pensé avant. Voilà, mais simplement parce que on pense que c'est important.
Si chacun, je veux dire, justement de une minute, hein, et avec que notre cœur se dirige vers ce désir, cette demande,
voilà
pour que...
Et chacun à sa façon,
ouais.
Les croyants prient, voilà, on propose aux croyants, ils prient. Celui qui n'est pas croyant, il peut s'imaginer la terre entourée d'une espèce de lumière d'amour. Celui qui veut imaginer autre chose, il imagine autre chose.
En tout cas, l'amour.
Voilà, pour que l'amour se répande sur terre.
L'opposé de la haine, de la violence,
voilà. Et
ça,
comme en ce moment, il y a beaucoup de haine,
c'est l'antidote.
C'est pas mal de rééquilibrer par la pensée et par la prière.
Voilà, donc si vous voulez vous joindre, voilà, une minute, même si on n'a pas le site, on peut y penser et participer.
Oui, alors nous, on a proposé à 8 heures pour que...
avoir les activités pour ceux qui...
Voilà,
mais autrement...
Mais si c'est à un autre moment de la journée, ça pose pas de problème.
Oui.
Et de toute façon, si jamais ça se répandait dans d'autres pays avec les décalages horaires...
On est toujours... toujours à 8 heures quelque part.
Voilà, on est toujours à 8 heures quelque part.
Oui, c'est ça. Donc, l'amour fait tâche d'huile.
Voilà, une minute, ça peut être dans le métro, ça peut être en marchant, ça peut être en buvant son café, à son travail, ça prend pas beaucoup de temps.
Mais c'est de se recentrer justement sur ça. Une minute pour que règne l'amour.
Oui. Hein?
Voilà, nous lançons, voilà, vous avez lancé ce site, hein, cette page Facebook, mais même si vous n'avez pas Facebook, que vous pouvez, tout le monde peut se joindre.
Tout le monde peut le faire.
C'est tout justement que ça se réponde, et là c'est un moyen pour de le répandre en parlant ce soir, par exemple.
Et ça rejoint la question de la guérison intérieure.
Oui, alors on raccroche comme ça, oui, comment?
Parce que finalement, quand on regarde, la guérison intérieure, c'est pas une méthode, même si on propose des retraites, des prières.
Oui.
C'est pas une méthode.
C'est pas une méthode, oui.
Mais c'est un résultat qui finalement ne dépend pas de la technique d'approche, c'est-à-dire que la guérison intérieure, la vie. Un voyage, une rencontre, une retraite, une psychothérapie peuvent mener à une guérison intérieure.
Tout peut mener, tout ce qui est de positif peut amener. Donc là, cette minute
pour que règne l'amour, elle peut mener aussi pour soi-même ou pour d'autres à une guérison intérieure.
Et le monde peut guérir progressivement de cette façon-là. Voilà,
parce qu'il
y a une interaction entre tous les humains.
On est solidairement
reliés.
Ouais. Et puis, à mon sens, la véritable guérison intérieure, elle consiste en l'ouverture du cœur et en la capacité d'aimer.
C'est ça,
ouais. Et donc, du coup, en pensant une minute pour que règne l'amour et que l'amour se répande, on ouvre forcément son cœur et on développe sa capacité d'aimer l'autre.
Oui.
Et du coup, on fait un travail de guérison intérieure pour soi-même et pour l'humanité.
Hein, c'est ça. Donc le fait de le savoir, de le faire, c'est pas compliqué. Hein.
Ah non, ça c'est très simple.
C'est à la portée de tous.
Ouais.
C'est une question d'ouverture du cœur et puis de décision.
C'est-à-dire,
je consacre une minute, c'est quand même pas beaucoup, chaque jour, pour que règne l'amour. Alors donc, prière dans ce sens-là, hein, c'est orienté dans ce sens-là.
Alors, prière, visualisation suivant sa sensibilité.
Ça, on peut se représenter quelque chose, la beauté aussi, la lumière.
Voilà. Tout ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut de
du
positif.
Du moment que ça symbolise pour la personne l'amour.
Ouais. Et puis avec des paroles qui peuvent venir aussi, de mots de paix, bienveillance, pardon, enfin
des phrases d'un livre, des prières. Nous, on a mis sur le site, par exemple, la prière de Saint François d'Assise, différentes prières.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Donc, peu importe, ce qui est important, c'est que la personne soit dans cette démarche d'amour, d'ouverture du cœur pour les autres, pour l'humanité.
En tout cas, ça ne peut que lui faire du bien à elle-même et au monde et à chaque personne. Voilà. Donc c'est tout gagné,
tout bénéfice
pour chacun. On va écouter tout de suite, et bien cette fois-ci, c'est Juliette Gréco qui chante « Je me souviens de tout ».
Radio Notre-Dame.
Je me souviens de tout, tout me revient dans le cou, tous ces mots insensés, dans de beaux chants de fous, des poètes sans palme, lumineux sans tuba, célestes, célestes, mes frères de joie. Toi, ma vieille blessure de guerre, qui me relance les soirs d'hiver, ma fêlure extraordinaire, qui ne se referme, qui ne veut se taire. nous n'étions que des mots, en train de jouer ensemble, dans ces moments, en train de jouer des mots. Je me souviens de tout, tout me revient dans le cou, tous ces mots insensés, dans de beaux chants de fous. Poète sans palme, lumineux sans tuba, céleste, céleste, mes frères de joie. Nous sommes devenus ces morphélins, en manque d'amour, ces évadés, ces revenants des bonheurs sourds, ces orphelins d'amour manqués, d'instants trop courts, sans frein, sans possibilité de demi-tour, sur nos regrets, sur ce passé, ce vieux retour. Je me souviens de tout, tout me revient dans le cou, tous ces bonheurs figés que le temps ne dénoue. Je me souviens de tout, tout me revient dans le cou, tous ces mots insensés, dans de beaux chants de fous, des poètes sans palme, lumineux sans tuba, célestes, célestes, mes frères de joie, célestes, célestes, mes frères de joie.
Gréco, voilà, c'est au moment. Je me souviens de tout, mais quand on a un long parcours de vie, ouais. C'est bon de se souvenir de tout. C'est une bonne chose, enfin de beaucoup. Tout. Non de voilà. Tout, mais
bon. Des grandes lignes.
Des grandes lignes, oui, c'est
et,
ça.
Et surtout, ce qui est bon, c'est de trouver le sens.
De trouver le sens de sa vie.
De ouais. Sa vie.
Alors, on parlait donc d'une minute par jour pour que règne l'amour. Alors, est-ce que la guérison intérieure, c'est, et vous parliez d'ouverture du cœur, c'est l'ouverture du cœur et l'amour.
Voilà, et donc c'est pas une démarche, c'est
non.
Un résultat.
C'est un résultat, oui.
Ou un état, on devrait dire. C'est plutôt un état d'ouverture du cœur et d'être dans l'amour. Mmh. Et ça rejoint le message de Jésus qui est un message d'amour quand on regarde le message. Alors il y a le commandement, quand on lui demande qu'est-ce qui est le plus important, oui. Il dit c'est d'aimer son prochain comme soi-même.
Oui.
Mais toute sa vie, c'est un message d'amour.
Oui.
Et c'est voilà. Et finalement, quand on garde, on peut pas se sentir guéri tant qu'on ressent de la rancœur, du ressentiment ou encore pire, de la haine.
Mais bien sûr. Oui.
Et qu'au contraire, quand on est capable de compassion pour l'autre ou d'amour,
oui.
Et pour l'autre et pour soi-même
oui,
aussi.
S'aimer soi-même aussi, oui, la bonne façon.
Voilà, là, on est dans la paix. Et finalement, la guérison intérieure, c'est ce sentiment de paix, mais qui dépend de l'amour en nous, notre capacité d'aimer, et de ne plus être en conflit avec soi-même ou avec les autres. Alors, c'est pas parfait, hein, ça veut pas dire que c'est permanent. Mais en tout cas,
on tend vers
globalement,
ça. Globalement, oui.
Globalement, d'être plus dans l'amour que dans
le ressentiment, la rancune, ça, tout ce qui est négatif, quoi. Ou la haine, n'en parlons pas. C'est complètement à l'envers de l'amour.
Voilà. Du coup, j'ai envie de dire, ça dépend pas d'une méthode, quelle qu'elle soit, mais c'est un chemin de vie.
Oui.
Et peut-être c'est l'objectif et le sens aussi de la vie, c'est cette capacité d'aimer et de se tourner vers l'amour.
Là, on est guéri à ce moment-là. Quand on,
voilà.
On est sur un chemin de guérison.
Voilà, on est sur un chemin, même si tu n'es pas guéri.
Bien sûr, on est sur un chemin.
La vie, c'est toujours un chemin.
Hein.
La petite Thérèse, t'es pas guérie psychologiquement, mais qui ne parle que d'amour.
Ben oui. Et effectivement, et c'est un chemin de vie et d'amour.
Oui.
Et pour elle et pour les autres. Et quand on voit passerai ma vie à faire du bien sur la terre, tout ce qu'elle peut donner d'amour, hein, de universel.
Mmh.
Ouais. Alors, donc. Parlez-nous de ce cheminement, puisque c'est un chemin.
Il va comprendre différents aspects. Le premier, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait.
Mm.
Ça veut dire d'accueillir son humanité avec ses limitations, mais aussi avec ses ressources. On n'est pas parfait, mais on n'est pas non plus... nul.
Oui,
comme
bien
certains
sûr.
Peuvent penser d'eux. Voilà, donc... On a des limites, mais on a aussi des ressources. Ensuite, d'accepter son histoire comme un chemin qui construit, hein, puisque finalement, ce qu'on est, eh bien, on le construit chaque jour.
Oui.
En même temps que se déroule notre histoire, en même temps que se déroule notre vie, eh bien, on se construit.
Mm.
D'où l'importance d'accepter son passé et de prendre conscience que ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à son passé et non pas à cause de son passé. C'est pas la même chose.
C'est grâce, c'est une autre perspective. Hein,
ouais.
Que ce soit négatif, c'est l'opposé.
Mais ça suppose un peu d'amour de soi, un minimum d'amour de soi, pour qu'on puisse regarder son passé comme ça, comme étant ce qui a permis ce qu'on est aujourd'hui, et non pas la cause.
Oui, oui. L'originalité aussi de ce qu'on peut être aussi,
le
côté unique de chacun.
Voilà. D'accepter que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille, voilà, parce que... Il y a des périodes tranquilles, et puis il y a des périodes, on peut perdre des êtres chers, ne serait-ce que ses grands-parents, ses parents.
Bien sûr.
Il peut y avoir de la maladie. Voilà, et de prendre conscience que le bonheur, c'est pas un état permanent, mais c'est la moyenne des hauts et des bas. Si la moyenne est positive, à ce moment-là, on se sent heureux. Si la moyenne est négative, on se sent malheureux.
Oui.
De sortir du combat intérieur, on pourrait rajouter de sortir victorieux du combat intérieur, parce que souvent on raisonne en binaire, c'est en tout ou rien, en noir et blanc. Mais c'est oublié qu'entre le noir et le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand on sort de cette vision binaire, donc de l'opposition et du combat intérieur qui nous oppose, à ce moment-là, on peut découvrir l'arc-en-ciel.
Voilà, c'est ça, et ça c'est merveilleux, hein, quand on voit un arc-en-ciel, ça arrive
dans le ciel de Paris,
ça arrive.
Oui. Au lieu d'être dans le conflit intérieur, eh bien, on s'ouvre à autre chose. D'avoir un sens à sa vie, parce que le sens de la vie, ou en tout cas de sa vie, c'est un peu comme un gouvernail qui permet de tenir un cap. Et de franchir les obstacles quand il y a des vagues, quand il y a de la tempête. Et lorsque la vie manque de sens, alors la personne ressent un mal-être, voire déprime, ou entre vraiment en dépression, ou alors elle va ressentir du vide et de l'angoisse. Voilà, mais il faut aussi accepter que parfois le sens n'arrive qu'après les événements, c'est-à-dire que on n'a pas toujours un sens a priori. Parfois, on comprend seulement après.
Après les ouais. événements, les choses difficiles, ça s'éclaire après.
Ça s'éclaire après. Voilà, et ça veut dire de l'accepter tout en gardant l'espérance, parce que quand on regarde globalement dans la vie, les choses finissent toujours par s'arranger. Et le pire qu'on puisse craindre, c'est de mourir, mais on est croyant, on se dit que ça va s'arranger après.
Ça s'arrangera après, ça s'arrange.
Donc,
on passe dans la vie de toute façon. Hein, voilà. La petite Thérèse encore, je ne meurs pas, j'entre dans la vie.
Ouais.
Bon. Donc voilà. Hein.
Voilà, donc d'avoir ce sens qui permet de franchir les obstacles qui sont inévitables dans la vie, mais en gardant l'espérance. Et puis le sens, c'est aussi ce qui permet d'agir dans la vie, parce que sans sens, dans quelle direction on va agir?
Oui, c'est ça. On peut aller dans n'importe quel sens et pas forcément dans le bon.
Ensuite, faire passer l'être avant l'avoir ou le faire. Et avec l'amour, c'est sans doute la chose primordiale dans la vie. La vie, ça consiste à être, ce qui n'empêche pas d'agir, mais ni même d'avoir des possessions. Mais ce qui est important, c'est ce sentiment d'être qui donne la pleine dimension à la vie.
Voilà, cette dimension d'être, hein, c'est justement la guérison intérieure, tout comme une psychothérapie, ça aide justement.
Voilà, ça aide à entrer dans l'être et non pas dans l'avoir, dans le faire.
Alors peut-être on peut énumérer encore
quelques
points. Et puis
être conscient, parce que pour ouvrir notre cœur, eh bien, on a besoin d'unifier toutes nos dimensions dans un mouvement d'amour. Donc ça veut dire d'être conscient dans l'ici et maintenant.
Oui.
Être confiant, que ce soit en soi, en l'autre, en Dieu ou dans la vie. La confiance, c'est ce qui permet d'avancer. Mais aussi d'avoir des relations harmonieuses. Donc la confiance, c'est vraiment un support pour la vie, que ce soit pour avancer dans ce qu'on a envie d'atteindre ou dans notre rationnel. Être responsable,
oui,
parce que personne d'autre peut l'être à notre place.
Oui.
Et même quand on...
Responsable de notre vie, oui.
Voilà, même quand on ne prend pas de décision,
oui,
ça reste un choix.
Ben oui.
On choisit de ne pas décider.
Ben oui, c'est ça.
Donc on peut pas échapper à la responsabilité. Élargir son champ de conscience.
Oui.
Parce que l'ouverture doit correspondre à une ouverture sur le monde. On n'est pas tout seul au monde. Et donc faut élargir notre champ de conscience. Que nous sommes tous liés les uns aux autres à différents niveaux.
Voilà, c'est ce qu'on a dit à travers une minute.
D'où l'importance de nous aimer les uns les autres.
Voilà, donc il y a encore plein de choses sans doute. Et puis, un grand merci Pascal Barinet. Je rappelle le téléphone pour ce stage de confiance justement. Le 1er et 2 février, 06 60 15 79 60. Et puis ifpsy.com. Tous les renseignements sont au standard dans la journée. Merci également à Pascal Parinet d'abord, et puis à Marielle qui était au standard ce soir, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD en podcast. Demain à 22h, écoute dans la ligne, notre invitée sera Sœur Marie Kérouz, grande figure du chant sacré d'Orient et d'Occident. La beauté sauvera le monde, écrit Dostoïevski. C'est un manifeste pour la beauté du monde. Elle nous offrira un ouvrage à deux voix avec Jean-Marie Pelt, botaniste, chrétien très engagé dans la défense de la création, à qui nous rendrons hommage puisqu'il nous a quittés le 23 décembre dernier. Voilà, très bonne nuit à tous. Puis je vous rappelle les journées ouvertes 16 janvier, porte ouverte des églises orientales catholiques à Paris. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.